En matière de persuasion, il y a d'un côté des techniques qui sont un peu bêtes et méchantes, tu sais que ça marche, il faut le faire, comme l'urgence, tu vois, l'urgence, on en a parlé, c'est essentiel, il faut le faire, mais c'est vraiment là pour le coup des petites tactiques ponctuelles. À côté de ça, la persuasion, c'est un travail de fond, et c'est un travail sur des choses qui sont finalement assez belles et assez intéressantes. Donc ce dont je voudrais te parler maintenant, c'est la manière dont tu persuades en étant sympathique. C'est ce qu'on appelle le liking dans la recherche, et ça, c'est un levier de la persuasion qui a été développé par Robert Cialdini. Donc je t'invite évidemment à lire son livre qui s'appelle, je crois qu'en français, il s'appelle Influence et Manipulation, mais c'est bien en fait, c'est... Il y a beaucoup de choses qu'on a entendues et réentendues, mais je trouve qu'à chaque fois, le fait de relire les études, ça te donne à chaque fois des pistes de choses que tu peux tenter dans tes contenus. Et donc là, ce que je te dis, c'est vrai des techniques dont on va parler là, mais de toutes les techniques qu'on a vues précédemment. Moi, à chaque fois, j'essaie de terminer ces modules en te montrant une manière dont j'applique ces leviers. Mais la vérité, c'est que tu dois, toi, trouver tes propres manières d'appliquer ces différents leviers. Il peut y avoir plein de manières de tester, en fait, à partir d'un même élément théorique, donc à savoir les gens sont plus convaincus s'ils te trouvent sympathique, mais il y a plein de manières dont tu vas pouvoir essayer d'appliquer ça. Et donc il faut tester, c'est pour ça qu'on a consacré tout un module pour mettre en place un modèle qui te permet de pouvoir récolter des données et de pouvoir t'assurer que tu vas dans la bonne direction. Donc le principe fondamental qu'il y a derrière ça, c'est finalement assez basique hein, et assez facile intuitivement à comprendre, c'est que on dit oui aux gens qu'on aime bien. Une fois qu'on a dit ça, quelles sont les différentes dimensions de cette sympathie qui ont été étudiées? Tu as d'abord la similarité. Et donc ça, c'est quelque chose qui est assez drôle. Hein. Les études là-dessus sont marrantes. Je t'en ai mis une que tu peux télécharger, hein, qui s'appelle « Quelle coïncidence les effets d'une similarité induite sur le fait que les gens vont accéder ou pas à notre requête. » Et donc ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont fait une étude où tu avais des étudiants qui travaillaient entre eux. Certains de ces étudiants travaillaient de conseil avec les auteurs de l'expérience et il devait au bout d'un moment demander de faire une petite chose à l'étudiant avec lequel il travaillait. Et dans cette expérience, on avait introduit une similarité accidentelle, tu vois. Les gens, le participant à l'expérience découvre que l'autre étudiant a le même nom que lui, qu'il a la même date de naissance que lui, ou même qu'il porte le même t-shirt que lui, tu vois, le t-shirt de la même marque, etc. Et quand on a induit comme ça une similarité, eh bien, il y a beaucoup plus de chances que l'étudiant à la fin accède à la demande. Face qu'on lui demande de faire. Donc il y a effectivement le fait que on aime bien et on est prêt à agir, à accepter les demandes des personnes qu'on considère comme nous, même si c'est des similarités aussi bêtes que le nom, que la date d'anniversaire, etc. Autre chose qui est importante, et ça c'est quelque chose que je peux utiliser régulièrement, c'est les compliments. En fait, quand on fait des compliments aux gens, ensuite ils sont plus susceptibles d'accéder à nos demandes. Et si tu veux, une des manières dont j'utilise ça, c'est qu'assez régulièrement, j'ai tendance à vouloir renforcer des comportements chez les gens qui me suivent, en fait. Tu sais, on dit que ça marche beaucoup mieux de dire aux gens merci d'être de telle manière plutôt que de dire vous devriez être de telle ou telle manière. Ça, c'est facile de comprendre ça. Quand on dit merci d'être, ça renforce un comportement existant, et si les gens n'ont pas ce comportement en eux, ils vont avoir tendance à se conformer à ça parce qu'il y a une volonté de cohérence et de s'aligner avec quelque chose de positif. Par contre, si on nous dit vous devriez, etc., ça veut dire toi maintenant t'es pas bien et tu dois faire des efforts pour devenir meilleur, et donc là les gens ont tendance plutôt à ignorer ce genre de choses. Et donc, assez régulièrement, je vais essayer de renforcer certains comportements dans ma communauté, du type nous on est une communauté de gens qui nous on travaille, nous on dit les termes, nous on publie du contenu, on est une communauté de gens qui sont volontaires, qui sont optimistes, etc. Et donc le fait de complimenter comme ça le public, non seulement ça veut dire qu'ils nous aiment plus, qu'ils vont être plus susceptibles de travailler, si tu veux, ça met de l'huile dans les rouages, mais l'autre chose qui est bien, c'est que ça les pousse également à adopter des comportements qui permettent de créer un écosystème qui est plus positif. Donc il y a que des choses positives à créer autour de ça. Alors, tu as évidemment le sentiment d'alliance, donc ça c'est quelque chose qui marche très bien et on en parle aussi dans le... dans le module qui est consacré au tribalisme, mais évidemment, bah, pourtant que tu te positionnes comme une personne qui est dans le même camp que les gens qui te suivent, une personne qui est bienveillante à leur égard, t'es leur allié. Et moi, je fais du contenu comme ça, hein. Je fais assez régulièrement du contenu où le message principal, c'est que je me soucie de mon public. Je me soucie de leur santé financière, je me soucie de leur santé mentale d'un certain côté, j'ai envie qu'ils soient motivés, j'ai envie qu'ils regardent la vie du bon côté, je me soucie de leur santé tout court, et je te montrerai un exemple de contenu là-dessus, mais c'est, voilà, il faut que les gens sentent qu'on est dans leur camp, qu'on est du même côté d'eux. Alors, il y a un autre truc dans ce qui fait qu'on aime les gens et qu'on va être plus susceptible de coopérer avec eux, et qui est, pour le coup, là, on n'y peut pas grand-chose, quoique, c'est l'apparence physique, c'est assez drôle. T'as une étude, je te conseille d'aller la regarder, parce que c'est une étude qui date des années 70, c'est assez facile à lire, hein, si tu lis l'anglais, sinon, bah, tu peux toujours la filer à ChatGPT, lui demander de te résumer ça, mais c'est une étude où ils ont testé le fait que quand une personne est belle, quand on trouve qu'une personne est belle, on a tendance à lui attribuer d'autres compétences, à lui attribuer des compétences, des traits du type, bah, elle est plus fiable, elle doit avoir plus de succès, enfin voilà, c'est, elle doit être plus morale, donc c'est assez drôle, mais il y a un effet de halo qui fait que dès qu'on perçoit une chose qui est bien chez une personne, on va avoir tendance à étendre ça au reste de sa personnalité, et la première chose qu'on perçoit chez une personne, c'est le fait qu'elle est belle ou pas trop belle, et donc on va avoir tendance à étendre ça au reste de sa personnalité. Une personne belle nous paraîtra plus compétente. Donc évidemment, il y a énormément de choses sur lesquelles on peut agir si on est vraiment pas beau, mais on peut s'habiller d'une manière qui nous met en valeur, on peut faire du sport pour avoir l'air dynamique, pour être bien fichu, etc. Donc il y a quand même des petites choses sur lesquelles on peut travailler là-dessus, mais il y a effectivement un lien entre le fait qu'on soit beau et le fait que les gens vont nous considérer comme ayant du succès, etc. Donc il faut le garder à l'esprit. J'ai beaucoup prôné le contenu, tu sais, un peu à l'arrache, etc. Mais si on fait des trucs qui sont trop à l'arrache, si par exemple en arrière-plan on a quelque chose où on sent que c'est un peu pauvre, un peu crasseux, un peu pourri, etc., ça marche moins bien. Donc il faut tant qu'à faire essayer de créer notre contenu dans un contexte qui nous met en valeur, parce que les gens vont avoir tendance, ils n'ont pas le temps en fait, et donc les gens vont avoir tendance à juger ça. Ils vont juger directement, est-ce que c'est propre, est-ce que c'est joli. Donc gardez à l'esprit que c'est un effet qui joue beaucoup sur notre capacité à convaincre les autres. Finalement, ça c'est un levier, j'ai commencé à travailler dessus beaucoup plus tard. Il y a le ton et l'humour, tu sais, le fait que les gens passent un bon moment, hyper important. Les gens vont revenir s'ils passent un bon moment avec toi, et c'est pour ça que maintenant j'hésite plus à faire des blagues, j'hésite plus à me marrer quand c'est des choses que je trouve drôles, etc., pour qu'il y ait une ambiance. Même si je traite des sujets qui peuvent être désagréables, j'essaie que les gens se mettent bien. Donc pourquoi tout ça? Le fait que tu essaies de jouer sur ces différents leviers qui font que les gens vont te trouver sympathique, pourquoi c'est important? Et bien parce que ensuite, quand tu vas faire des argumentaires de vente, quand tu vas essayer de convaincre les gens d'acheter chez toi, ce qui va se passer, c'est que s'ils ont un bon sentiment à ton égard, et ils vont avoir tendance de chercher des raisons d'être d'accord avec toi. Par contre, si les gens t'aiment pas trop, ils vont essayer de trouver toutes les manières possibles de critiquer ton discours et d'essayer de résister à ton discours. Donc gardez à l'esprit que c'est très important, c'est-à-dire que plus t'es sympa, plus ça met de l'huile dans les rouages, et plus le processus de persuasion, c'est quelque chose qui va se passer bien. Alors je te mets certaines manières dont tu peux essayer de te rendre sympathique avec ton contenu, mais je pense vraiment que la base de tout, c'est de te soucier de ton public. C'est véritablement d'avoir envie qu'ils grandissent, de te dire c'est plus agréable de vivre dans un monde où je suis entouré de gens qui réussissent, qui vont bien, qui sont heureux, plutôt que le contraire. Penser à être reconnaissant que des gens te suivent, commentent, aiment ce que tu fais, etc. Et si tu commences à aimer ton public va le sentir, mais il faut pas seulement que ce soit au stade du sentiment, il faut que tu cherches à aider ton public, à les faire grandir, à les aider, etc. Donc c'est pour ça, par exemple, que je fais des petits contenus comme ça, des contenus où je me soucie de la santé de mon public, et je les encourage à prendre soin d'eux. Et avec ça, je pense que je vais pouvoir créer une boucle très positive. Je vais faire plus de choses pour prendre soin de ma santé, je vais apprendre plein de choses là-dessus, et je vais partager les choses avec mon public pour les aider, quoi. Comme de la même manière que j'ai envie que ma famille aille bien, et que je suis prêt à faire des choses pour aider ma famille à aller bien, j'ai envie qu'un maximum de gens dans mon public aillent bien. C'est aussi simple que ça.
Que oui, dans les vidéos, on rigole pas mal, on fait des petits coups de gueule, je fais les fous, etc. Mais n'oubliez jamais que tout ce que je fais avec mes contenus, je le fais parce que je me soucie de vous. Je me soucie de votre santé financière, je me soucie de votre réussite, et de plus en plus, je me soucie de votre santé. Et récemment, j'ai lu une étude qui était intéressante qui montrait que le muscle, c'était le meilleur prédicteur de la vie en bonne santé après 70 ans. Et donc là, si vous êtes...
Donc c'est vrai, hein, c'est une étude qui existe, et enfin, j'ai trouvé ça assez intéressant. Ça m'a motivé à poursuivre mon défi où je fais des pompes. Tu sais, c'est un défi, un jour, une pompe, 1000 jours, 1000 pompes. Et donc je vais progresser dans ce défi, et ce sera un prétexte pour me renseigner sur la santé et pour trouver un maximum de choses qui feront du bien à mon public. Et je pense que ça va me permettre de créer un écosystème toujours plus positif. Encore une fois, c'est une manière dont c'est possible de traduire ce principe selon lequel les gens seront plus prompts à acheter chez toi s'ils te trouvent sympathique. Donc c'est une manière de le décliner. Le principe, il est validé, mais ensuite à toi de tester différentes manières dont tu peux mettre ça en pratique dans ton propre contenu. Il y a plein de choses pour t'inspirer dans ce document, et pour ce levier, comme pour tous les autres que je partage avec toi dans ce module, l'idée c'est de tester plein de choses, et au fur et à mesure de sélectionner ce qui fonctionne le mieux. Allez, à toi de jouer.